Bien, nous allons commencer. Il est l'heure. Et je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour la lettre de Jacques. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as inspiré ce texte pour qu'il nous inspire, nous, pour qu'il inspire notre conduite. Et ce soir, nous te prions pour le passage que nous allons étudier. Nous te prions que tu nous aides à le mettre en œuvre dans nos cœurs à toutes et à tous. Merci de nous ouvrir le cœur à ta parole. Merci pour ton esprit qui est en nous et qui éclaire notre lecture. Merci Seigneur pour la fraternité au sein de laquelle nous pouvons partager nos lectures et nous enrichir mutuellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Donc le sujet de ce soir, vous avez eu le titre, c'est « L'orgueil et ses limites ». Alors, c'est dans le cycle de, je le dis pour les personnes qui ne sont pas habituées, merci pour les chaises supplémentaires, hein. La salle a servi à beaucoup de choses ces derniers temps, ce qui fait que l'installation études bibliques, il faudra la refaire. Nous sommes dans le cycle de la lecture, le cycle qui s'appelle « Aujourd'hui j'obéis », lecture de l'épître de Jacques, et nous avons... Plutôt que de choisir une lecture cursive comme ça, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nous avons retenu un certain nombre de thèmes. Et une fois qu'on aura lu tous les thèmes, on aura lu toute l'épître. Mais on le fait par thème. Et le thème de ce soir, c'est l'orgueil. Alors, une certaine forme d'orgueil, pas l'orgueil en général, mais une certaine forme d'orgueil. Dans ma Bible, alors c'est notre texte, c'est le chapitre 4, versets 13 à 17. Enfin, 13 à 16, on préférerait dire. 13 à 16, et puis on verra le 17 en bonus. Et comme sur les CD, vous savez, il y a des bonus, et bien là, ce soir, il y a un bonus, ce sera le verset 17. Ça va, tout le monde y est ? En sous-titre, ou en titre de... donné par mon édition de la Bible, c'est écrit « Ceux qui font des projets orgueilleux ». Donc, c'est pour ça qu'on a titré, nous, dans notre cycle sur Jacques, « L'orgueil et ses limites ». Il est bien question de l'orgueil ici, mais une certaine forme d'orgueil. Une confiance en soi, démesurée, surdimensionnée, face à l'avenir. C'est pas par rapport aux autres cette fois, c'est face à l'avenir. Verset 13, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous mettez votre fierté dans votre présomption. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un... » Alors là, je lis le verset 17 quand même, hein, qui fait partie du texte indiqué pour aujourd'hui. « Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. » Alors, petite explication de texte. Pour moi, c'est de mon point de vue, hein, c'est un texte très simple, en fait. Il n'y a rien de compliqué du point de vue de la traduction, du point de vue d'une expression un peu compliquée ou quelque chose de ce genre. Bon, on va quand même prendre les versets l'un après l'autre. Verset 13 tout d'abord. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. » Alors le « à vous maintenant », c'est exactement la même tournure que celle qu'on trouve au début du chapitre 5. « À vous maintenant, les riches ». Donc, c'est un peu comme quand vous êtes chez l'épicier et qui vous dit « Bon, à nous deux maintenant, ça veut dire je vais m'occuper de vous ». Ben là, c'est un peu ce que Jacques dit, c'est-à-dire les oreilles de ces lecteurs-là commencent à siffler, commencent à rougir peut-être, parce qu'il va vraiment s'adresser à une cible, à un public ciblé. À vous maintenant, et s'adresser de manière assez sévère. Hein. La tournure, la syntaxe en grec du verset 13 laisse apparaître une accumulation. C'est-à-dire que c'est vous faites ça, et vous faites ça, et vous faites ça, et vous faites ça. Il y a la répétition de la particule qu'on traduit pas toujours en français pour les hellénistes, puisqu'il y en a maintenant à l'Église, les hellénistes. Hein, c'est la conjonction kai qui est répétée entre chaque verbe du verset 13. Donc ça veut dire vraiment, Jacques décrit des gens qui vont... qui sont pleins d'enthousiasme, qui veulent faire plein de choses, qui sont très entreprenants et qui en veulent et qui alignent les projets l'un après l'autre. Est-ce que... Alors, les mots qui sont utilisés, c'est faire du profit. C'est faire du business, on dirait aujourd'hui en bon français. Faire de l'argent. Est-ce que c'est ça qui va être critiqué dans les lignes que Jacques écrit là? Alors, oui et non. Oui, parce que cette accumulation-là, elle est dans un paragraphe qui précède de peu le paragraphe suivant, qui commence de la même manière, à vous maintenant, les riches. Et les riches, là, vraiment, c'est des riches malhonnêtes, hein, qui sont décrits et décriés par Jacques. Donc on peut se dire, déjà là, le petit texte qui précède juste l'apostrophe aux riches, faire du profit, c'est peut-être un peu le même registre, c'est-à-dire, bon, c'est pas forcément une action très, très positivement vue par Jacques. Ceci dit, si on reste dans notre texte, ce n'est pas critiqué par Jacques, le fait de faire du profit. Parce que, regardez, ce qui va reprocher aux gens qui font des projets, et des projets de gagner de l'argent, ça ne va pas être de gagner de l'argent, ça va être de les faire sans considérer Dieu, en les faire comme si demain leur appartenait. Au verset 15, Jacques leur dit, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et là, Jacques reprend ces versets, ces contenus du verset 13, sans le critiquer, il le résume simplement. Donc, il ne faut pas non plus dire que Jacques fait la critique de ceux qui veulent gagner de l'argent. Là où le bât blesse, c'est au verset 14. Vous avez des questions, des remarques? Tout le monde a trouvé une place? Oui?
Le verbe trafiquer.
Alors, le verbe trafiquer n'est pas négatif. C'est faire des affaires. C'est pas on va vendre de la drogue, c'est
non.
Ou c'est pas on va faire des cambriolages. C'est parce que trafic en français peut avoir un sens négatif. Moi j'ai dans ma traduction nous y ferons des affaires, voilà ce qui est, et nous gagnerons de l'argent, nous réaliserons des gains, voilà. Donc il y a rien de négatif dans ça. Parce effectivement, si on avait un Jacques qui nous écrit « Allez, demain, on va aller cambrioler la banque et on va... » Non, voilà, là, Jacques aurait critiqué. Il n'y a rien de critiquable du point de vue de l'honnêteté dans le verset 13. Ce qu'il y a ce qui est à souligner, c'est que le verset 13 dénote vraiment un esprit très entreprenant pour l'avenir, comme si demain était vraiment déjà en possession de ceux qui font les projets. Alors, le verset 14, le bât blesse ici. À vous qui dites demain, 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 eh bien, demain, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain, ou ce que donnera votre vie demain. Et puis alors, la fameuse image de la vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît, elle est très parlante. Hein, c'est pas pour ça, je dis... Aujourd'hui encore, on voit très bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas une image liée au premier siècle. C'est très parlant. Il n'y a pas besoin d'épiloguer. Ça veut dire que nous ignorons ce que sera demain et que notre vie est passagère. Hein, c'est les deux aspects que Jacques dit là. Tu fais des projets, mais tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et de toute manière, peut-être même que tu ne seras plus là. Alors là, on a tout de suite en mémoire une parabole, un enseignement de Jésus qui parle de celui qui accumule des trésors dans un grenier et qui finalement meurt et ne profite pas de ses trésors. Donc on est un peu dans cette idée, calme-toi un peu, demain tu ne sais pas. Ensuite, le verset 15, Vous devriez dire, alors voilà l'enseignement, après avoir fait le constat, Jacques enseigne, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut. Alors là, moi qui ai, pour cher et tendre, une antillaise, je peux vous dire qu'aux Antilles, je ne sais pas si Thérèse est là finalement, non, elle n'est pas restée. Aux Antilles, la petite phrase « si Dieu veut », à demain, si Dieu veut. Là, vraiment, les Antillais sont très, très imprégnés de cette idée « si Dieu veut ». Alors peut-être qu'il faut le dire, enfin, on ne va pas leur reprocher de le dire trop rapidement, mais au moins ils le disent. Et c'est cette idée que donne le verset 15. C'est pas qu'il faille pas faire de projet. Vous notez bien le verset 15. C'est pas qu'il faille pas entreprendre des choses pour gagner de l'argent, pour faire des affaires, etc. Mais on prend conscience de la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu, lui, sait ce dont demain sera fait, à l'inverse de nous. Et Dieu, lui, demain, il sera là. Ça, c'est sûr. Nous, on ne sait pas, mais lui, on sait. Il est éternel. Nous sommes éphémères. Lui est éternel. Nous ne voyons qu'aujourd'hui. Lui voit demain. Donc, on prend conscience en disant, si Dieu veut, que nos projets se font à l'aune de la, qu'est-ce que je dois dire, de la puissance, la grâce, la sagesse, la volonté de Dieu. Or, les personnes que Jacques vise ne font précisément pas ça. Et c'est là qu'est le problème. Vous devriez dire, sous-entendu, vous ne dites pas. Pire, verset 16, « Mais maintenant, vous mettez votre fierté dans votre présomption. » Alors là, c'est un peu compliqué. Présomption pourrait traduire par vantardise aussi. J'ai regardé dans un vieux dictionnaire, un dictionnaire grec classique, le Bailli, pour les connaisseurs. Et le mot utilisé ici, on peut le traduire par vantardise. Alors, vous êtes fier de votre vantardise. On peut être fier de choses qu'on a bien faites. Moi, quand j'ai fait la vaisselle, j'ai rien cassé, je suis fier. Y a une bonne fierté d'ailleurs, c'est à noter, parce qu'après, toute fierté de ce genre est mauvaise. La suite du verset. Ça veut dire qu'il y a une bonne fierté qui n'est pas, il y a une fierté qui n'est pas mauvaise, puisque celle-ci, celle de ce genre, est mauvaise. Quelle est cette fierté mauvaise? Autrement dit, de l'orgueil. C'est pas la satisfaction, c'est pas la fierté d'avoir réussi quelque chose de bon, etc. C'est la fierté de s'être vanté, d'avoir vendu demain, alors qu'on ne sait pas de quoi ce sera fait, de quoi demain sera fait. Il pourrait au moins avoir l'orgueil discret, ces braves gens, de ne pas trop la ramener. Mais non, ils se vantent, ils en ajoutent. Et c'est là qu'est le problème. Et cette fierté-là, c'est de l'orgueil, c'est une mauvaise chose.
Elle a un bon mot, là.
Fanfaronnade. Oui, alors j'ai dit vantardise, on peut dire effectivement fanfaronnade, et j'en ai trouvé quelques autres, mais qui sont en français moins courants. Donc, on est en train d'apprendre une leçon. C'est le fait que il y a une ambition qui est saine dans l'esprit d'un chrétien. Il y a une ambition qui est saine. Ici, Jacques n'empêche pas l'ambition. Mais il lui évite de tomber dans des pièges. Oui ? Je ne dirais pas la cadrer, moi je dirais lui éviter de tomber dans des pièges. Parce que la cadrer, c'est comme s'il fallait la cadrer. Or non, l'ambition est une bonne chose. La fierté est une bonne chose. Nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes doués de toutes sortes de capacités. Donc la fierté est une bonne chose. Mais si elle glisse vers l'orgueil, si elle glisse vers la vantardise ou la fanfaronnade, alors c'est un travers, c'est une mauvaise chose. Alors, est-ce que vous avez des questions de compréhension? Je me suis arrêté au verset 16. Est-ce que ce texte est clair pour tout le monde? Oui? Non? Tout va bien? Vous voyez qu'il n'est pas compliqué, ce texte. Ah oui, ah bah ça tombe bien alors. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce texte? On va essayer de le résumer. Ce que Jacques ne dit pas. Aidez-moi un petit peu. Qu'est-ce que Jacques ne dit pas ?
Vers où ça conduit ?
Vers où ça conduit, c'est-à-dire ?
Il est dit que tout orgueil de ce genre est mauvais. Non, si c'est mauvais, ça fait du mal.
Oui. Alors, effectivement, il n'en dit pas plus. Mais la vantardise, ça peut faire du mal à la personne qui demain tombera de haut, si ses projets ne se réalisent pas. Ça peut aussi décourager, ça frise le mensonge. Effectivement, ça n'a pas de bon fruit.
Ça fait du mal à celui qui nous a donné les capacités.
Ça fait du mal à celui qui nous a donné les capacités.
Parce qu'on ne l'honore pas.
Parce qu'on ne l'honore pas, on l'oublie. Hein, on le traite pour quantité négligeable. Tout à fait.
Il ne condamne pas la richesse.
Alors Jacques ne condamne pas la richesse, effectivement. Et même dans le texte suivant, il va condamner une certaine forme de richesse. On en a déjà parlé. C'est important de ne pas tomber tout de suite dans des lieux communs, enfin des ornières un peu. Nous, il y a des discours convenus entre chrétiens. On se dit, faut pas être matérialiste, il faut être humble, il faut... C'est pas ce que Jacques nous dit là. Je dis pas que le matérialisme est une bonne chose, je dis pas que l'orgueil est une bonne chose en général, mais là c'est un certain type d'état d'esprit et de commandement qu'il donne sur les projets qu'on fait, la manière dont on les fait. Mais le contenu, lui, donc il ne condamne pas la richesse. Qu'est-ce qu'il condamne pas d'autre ? Bah, je viens de le dire, hein, les amis.
La réussite.
Le fait de faire des projets. Il ne faudrait pas qu'en lisant ce texte, on arrive à dire, moi, comme je ne sais pas ce qu'il y a demain, je ne fais aucun projet. Ça veut dire que on va pas, les jeunes ne vont pas faire d'études puisqu'il ne faut pas faire de projet d'avoir un métier, etc. Enfin, on en arrive à un discours qui est complètement en dehors de la réalité, parce que même nous, chrétiens, bons chrétiens, etc., on fait des projets. Et on a raison d'en faire. Ok, il y a d'autres choses que Jacques ne dit pas ?
Moi, je veux juste dire, dans la proverbe, il dit que le corps de l'homme fait des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, quelque chose comme ça.
Alors, tu as raison de citer un proverbe qui dit l'homme fait des projets et c'est Dieu qui décide. Alors, ça s'est passé dans le langage courant avec un proverbe qu'on connaît très bien en français. L'homme propose et Dieu dispose. C'est exactement l'enseignement de Jacques. L'homme propose. Il propose, il n'est pas sans rien faire, à attendre que les choses lui tombent tout cuites. Tout cuit. Non, ça c'est autre chose, André, ça n'a rien à voir. Et c'est pas si sûr en plus. Alors, qu'est-ce que Jacques condamne dans ce texte maintenant ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire que Jacques condamne dans ce texte ? L'autosuffisance, oui. L'autosuffisance.
Il n'a pas pour partenaire son créateur. La personne qui fait des projets n'a pas comme partenaire son créateur.
On va dire l'oubli du créateur dans les projets, oui.
Il s'attribue les mérites.
Dont il s'attribue les mérites, oui.
Pourtant, si on a des capacités, c'est que Dieu va... Donc, il est normal qu'on soit reconnaissant pour ce don. Et Dieu s'attend à ce qu'on dise merci pour ce qu'il nous donne.
Alors, tu peux garder ça sous le coude, Claude, parce que c'est un élément que j'aimerais aborder tout à l'heure. L'idée qu'effectivement, on n'est pas dans l'humilité qui nous écrase. Hein, je ne sais rien faire, je ne suis qu'un nul. Cette humilité-là n'honore pas le Créateur qui nous a fait, dit le psaume 139, des créatures merveilleuses. N'honore pas non plus le Jacques qui a écrit ce texte qui ne condamne pas les projets qu'on fait.
Quand on pense à la parabole des talents, c'est pareil, c'est Dieu nous donne des talents.
Oui. Alors, un autre parallèle, en fait, des parallèles, il y en a des extrêmement nombreux. Hein. On touche un sujet après qui a beaucoup de ramifications. tu cites, je le cite pour l'enregistrement, la parabole des talents, où Dieu nous confie des talents. Et l'expression en français est à double sens, c'est-à-dire un talent, c'est une capacité qu'on a de faire quelque chose. Hein. Bah, Dieu nous confie des talents, c'est aussi des pièces d'argent. Hein. D'ailleurs, je pense que le sens français vient de là, sauf erreur, vient de la parabole. Dieu nous confie des talents pour qu'on les utilise. Donc on ne va pas être sous prétexte de l'humilité à dire ben moi je ne sais rien faire, je suis petit. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Effectivement. Alors, moi j'ai noté ce que Jacques condamne, c'est l'assurance orgueilleuse face à l'avenir. Hein. C'est l'idée que demain nous appartient. Et c'est la vantardise. Alors, c'est un peu les mêmes facettes d'un même point, d'une même chose. Tout à l'heure, vous avez dit la présomption, l'autosuffisance, voilà. La vantardise, mais c'est toujours au sujet de l'avenir. Alors, je vous propose, pour moi, l'étude biblique est finie, en fait, là. Mais l'application est loin d'être finie. Comment ce texte nous concerne-t-il, nous qui sommes sages et intelligents, qui n'avons aucun défaut, qui ne sommes jamais orgueilleux?
Je ne sais pas, je réfléchis à ce mot autosuffisance.
Oui.
La parole nous dit quand même de prendre soin de notre famille, dans ce sens de faire tout ce que nous pouvons pour répondre à nos besoins.
Non, mais c'est pas dans ce sens-là que je donnais, c'est autosuffisance, se sentir capable de tout faire. C'est penser que l'homme est au centre de tout et qu'on est capable de s'en tirer tout seul. C'est pas dans le temps pour autosuffisance alimentaire.
On va revenir là-dessus. En tout cas, j'ai effectivement écrit ça dans mes notes. Là, maintenant, je me suis demandé comment on va mettre en pratique ce texte. La première des choses, la question que je pose, c'est pourquoi faisons-nous des projets? Parce que là, ça s'adresse à des gens qui font des projets et les projets ne sont pas critiqués. C'est totalement humain de faire des projets. Je ne suis pas psychologue. Mais quelqu'un qui ne fait pas de projet, qui n'a pas une idée pour demain, c'est quelqu'un qui est les gros courants de société, no future, des choses très, très lourdes, très destructrices, soit quelqu'un qui souffre de dépression. Ce qui est naturel à l'homme, c'est de se projeter dans l'avenir. C'est de dire demain je vais faire ci, demain je vais faire ça. On a besoin de faire quelque chose de sa vie. C'est normal, un jeune à 15 ans qui dit « moi, j'ai pas de projet », ça fait de la peine. On préfère avoir un jeune qui, à 10 ans, c'est mignon, hein, dit « moi, je serai pompier quand je serai grand ». À 20 ans, il a peut-être d'autres projets, mais il en a des projets. Quoi. C'est dur de voir un jeune qui a pas trouvé un projet. Donc, je pense que c'est un besoin de faire quelque chose de sa vie. Dieu nous a fait comme ça. C'est une bonne chose. On a besoin de s'affirmer aussi. Combien de fois les gens qui trouvent une satisfaction dans leur travail parce qu'ils peuvent montrer leur capacité, ils peuvent montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Et c'est super. Il n'y a pas que l'argent qu'on reçoit à la fin du mois. Il y a aussi la satisfaction d'être reconnu, d'avoir bien travaillé, d'avoir fait un travail intéressant. Si on est personne au foyer, c'est tout aussi vrai hein, d'avoir réussi, d'avoir un foyer agréable. S'il y a des enfants, bah de faire en sorte qu'ils soient heureux et qu'eux-mêmes fassent quelque chose de leur vie. Enfin voilà, il y a toutes sortes de modèles qu'on peut suivre, pas forcément le travail rémunéré. Montrer qu'on est quelqu'un, et je reviens à la question de la fierté. Pour moi, faire des projets, c'est aussi être fier de ce qu'on est. C'est naturel, c'est pas de l'orgueil, c'est une manière d'être debout, au lieu d'être avachi par terre. Quoi. Et puis, bien sûr, c'est aussi avoir de quoi vivre. Il ne faut pas se leurrer. On vit dans une société où, pour pouvoir manger, même si certains parlent du revenu universel, hein, c'est un des sujets dans les élections. Rendez-vous dimanche prochain, après le culte, groupe Ecclésia sur les élections présidentielles. Mais voilà, on essaye quand même de pouvoir s'acheter des vêtements, de pouvoir loger quelque part, se chauffer, manger. Voilà, c'est des projets qu'on fait. Et c'est naturel, c'est normal. Attention donc comme une lire, de ne pas lire notre texte, comme on l'a dit, comme une condamnation de ces projets, une condamnation de l'ambition, sous prétexte d'une prétendue humilité. Je vous rappelle que l'humilité n'est pas l'annihilation de nos capacités, mais peut-être une mise en regard, avec une mise en perspective avec ce qu'est Dieu et ce que sont les autres. Sous le prétexte d'une prétendue confiance en Dieu aussi. Vous savez, on peut dire, j'ai tellement confiance en Dieu que je n'ai besoin de rien préparer. On fera un peu comme la cigale de la fable, finalement. Hein, la confiance en Dieu, oui, mais ce n'est pas un prétexte pour ne pas faire de projet. C'est peut-être même plutôt un prétexte pour faire des projets en s'appuyant sur la confiance que Dieu suscite. En s'appuyant sur Dieu qui suscite la confiance. Et puis, sous le prétexte d'une prétendue spiritualité aussi, je me suis dit, mais parfois, quand on est des bons chrétiens, on vit dans la dépendance de Dieu. Ceci dit, on a raison. Mais il ne faut pas que ce soit non plus le prétexte de ne rien construire, de ne rien chercher à gagner comme moyen, Edil le disait tout à l'heure. Et je pense que c'est un élément important aussi de voir notre spiritualité en Dieu comme une spiritualité de l'action, du projet, de l'accomplissement de soi, et non pas de l'effacement de soi. Donc voilà, pourquoi fait-on des projets ? C'est parce que c'est humain. Ensuite, j'ai mis sur mon papier trois tendances qu'on a dans ces projets, ou pour ces projets. Premièrement, c'est la peur de l'avenir. Je ne sais pas si... Bon, alors, ça dépend des générations, hein, mais qui d'entre nous n'a pas connu l'angoisse devant ce qu'on va être, ce qu'on va faire, comment on va vivre. Alors là, tout de suite, on a, bien sûr, l'enseignement de Jésus, ne vous inquiétez pas pour l'avenir, les oiseaux des champs ne s'inquiètent pas, ils étaient mieux vêtus que Salomon dans toute sa splendeur, sermon sur la montagne. Voilà, on a ça, d'accord, mais au fond de nous-mêmes, on n'est pas en bois, hein. Il y a des moments, on les a à zéro, quoi. On est angoissé. Est-ce que je vais trouver un travail ? Bon, peut-être chacun d'entre nous, là je fais le tour, peut-être on a tous plus trop cette question. Est-ce que je vais arriver à déménager ? Est-ce que je vais arriver... Quand je serai à la retraite, est-ce que j'aurai assez de quoi vivre, pour vivre ? Et puis si je tombe malade, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, on a tous des peurs comme ça. Je me demande si cette vantardise que Jacques décrit ici, du verbe décrier, c'est pas un genre de pansement ou de remède qu'on met sur nos peurs. Quand on a peur, hein, on fonce dans le tas, on fait comme si on était plus fort. Et puis on se vante parce qu'à l'intérieur, on est tout petit. Alors dehors, on essaie d'être tout grand pour cacher notre peur. On a le droit d'avoir peur. C'est naturel. Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter et il a bien fait parce qu'on a cette tendance. Et pour répondre à cette tendance de la peur devant les défis de l'avenir, on a peur de ne pas être à la hauteur. Si on a un petit fond dépressif, si beaucoup d'entre nous savent ce que c'est que la dépression, mais il y a tout qui fait peur. Il y a le fait d'aller travailler le lendemain qui peut faire peur, parce qu'on sait qu'on aura un rendez-vous difficile, etc. Et il y a plein de choses qui nous font peur, qu'on se voile, qu'on ne veut pas reconnaître. Et peut-être qu'un des remèdes, c'est de de se vanter. Du moins, c'est une tentative. Le premier, à mon avis, le premier remède qu'il nous faut avoir, c'est la confiance en Dieu. C'est, au lieu de se cacher derrière notre toute-puissance, entre guillemets, il vaut mieux avoir recours à la sienne, c'est plus sûr. Il vaut mieux s'appuyer sur Dieu pour entreprendre plutôt que de se cacher derrière des faux-semblants. Peut-être on a besoin d'être rassuré, oui. Laissons Dieu nous rassurer. Ravivons notre confiance en Dieu pour bien faire des projets et ne pas tomber dans la vantardise, dans le fait de bomber le torse pour cacher le cœur qui palpite, l'angoisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, j'avance. Peut-être je vous confesse tous mes méandres psychologiques, que vous ne vous y retrouvez pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens ce texte. Le deuxième point, c'est faire tout seul. L'ambition, ça peut vite glisser vers l'orgueil, on l'a dit. Et vous savez, cette petite phrase, « j'ai besoin de personne ». Vous l'avez déjà dite, cette phrase, vous ? Souvent ? Ouais. Bon, on est fait du même bois, alors. Et là, je rejoins ce que Dil disait tout à l'heure à propos de l'autonomie. Oui, on ne va pas sans arrêt demander aux autres de nous lasser nous fermer notre manteau ou laver notre voiture ou je sais pas quoi, moi, j'invente n'importe quoi. Non, on va pas demander aux autres tout ça. On est autonome, on sait faire. On est indépendant. On n'a besoin de personne. On reçoit de quoi vivre parce qu'on a travaillé et voilà. Oui, mais il ne faut pas oublier notre statut d'être humain. Moi, aujourd'hui, j'ai eu besoin de tas de gens. Pourtant, je suis autonome, je suis un grand garçon, je sais marcher, je sais conduire, enfin grand, pas au sens physique du terme. Je sais marcher, je sais me déplacer, je suis autonome, etc. Mais j'ai besoin de toutes sortes de personnes. Ce matin, j'étais chez le dentiste, tenez. Eh bien, on en a besoin d'un dentiste, hein. Parce que faire soi-même, moi je veux bien. Il y en a qui ont essayé, hein, mais. Vous voyez ce que je veux dire, je ne veux pas m'étendre. Reprenons conscience de notre statut, tout simplement, de créature de Dieu, au sens où nous avons besoin les uns des autres. Ce n'est pas je ferai, ce n'est pas nous allons faire, nous, les 3-4, les meilleurs, et puis les autres, on s'en fiche, c'est nous avons tous besoin les uns des autres. Le remède, oui, pardon.
Je voulais juste dire, après, c'est quand même une difficulté de, comment dire, de demander de l'aide aux gens. Comment expliquer ? C'est un peu.
C'est gênant.
C'est gênant, et puis on a notre fierté qui nous fait que.
Eh ben voilà, on a notre fierté. Alors vous dites, je répète pour l'enregistrement, c'est gênant parfois de demander de l'aide aux gens. On a notre fierté, c'est gênant, voilà. Alors c'est vrai, et puis c'est vrai que c'est gênant. Hein, il est question de la dépendance, par exemple. Vous savez, les personnes qui souffrent d'un handicap physique ou à cause de l'âge sont dépendantes des autres. Moi, au début, je croyais que c'était ceux qui prennent la drogue, des produits de dépendance. Ça, j'ai mal compris à la radio. Non, c'est quand des personnes dépendent des autres. Et il y a un côté contraignant, gênant. Privation de liberté, ce genre de choses. On est d'accord. Mais en même temps, avoir l'idée qu'on peut vivre sans les autres, je ne dis pas forcément dépendre des autres, mais qu'il y a une interdépendance. Ce que je fais moi pour d'autres, d'autres en ont besoin. Ce que d'autres font pour moi, moi j'en ai besoin. C'est un échange perpétuel dans une vie en société qui n'a rien de gênant là pour le coup. Il y a des moments où vraiment on est dans une dépendance. Et c'est vrai que ça peut être humiliant, gênant, etc. C'est vrai parce qu'on a besoin d'autonomie. On a besoin de cette fierté dont Jacques parle. On va faire des projets, on va y arriver, on va se tenir debout, on va mordre, on va arracher, on va gratter et on va y arriver. Quand on n'a plus ça, c'est vrai que c'est frustrant, que c'est gênant. Alors, pour moi, le remède à cette idée de faire tout seul, c'est pas de faire la leçon, c'est de tout simplement louer Dieu. Pourquoi ? Quand je loue Dieu, je me remémore ce qu'il a fait, je me remémore les autres créatures qu'il a créées autour de moi, et donc je prends conscience tout à coup de cet univers dans lequel j'ai ma place, mais les autres ont leur place, et je trouve que c'est un excellent remède. Quand on aurait tendance à vouloir être, à vouloir faire des projets tout seul, voilà, j'ai besoin de personne, prendre conscience de la présence de Dieu, de la création de Dieu et des créatures de Dieu qui sont autour de moi. Je pense que là, on aura un bon remède. Et puis ça coûte, c'est pas remboursé par la Sécu, mais ça coûte pas cher. Le troisième problème, je trouve, chez ces gens que Jacques décrit, c'est qu'ils ne voient pas loin. C'est des gens qui m'ont l'air de se limiter au quotidien. C'est des gens qui pensent qu'au matériel. On va faire du profit, on va gagner, on va, voilà. Bon, et après, quand tu auras gagné, tu vas le dépenser comment, ton argent? Et puis ça va être quoi, tes journées? Vous savez, ça m'a fait penser... Je discutais de ça avec une de nos filles, d'une copine qu'elle a. La seule conversation qu'elle a, c'est les vêtements. Il n'y a rien d'autre. Au bout d'un moment, on se dit, mais l'être humain, c'est quoi ? C'est autre chose, non ? Que des vêtements. C'est autre chose que de regarder telle ou telle émission à la télé. C'est autre chose que de, je sais pas, d'avoir acheté la belle voiture qu'il faut, etc. C'est autre chose, l'être humain. Et j'ai l'impression que les gens que Jacques critique ici, eh ben, ils ne voient pas autre chose. Ils sont dans le quotidien le plus matériel. Et aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup de gens comme ça. Parce qu'on vit dans une société qui nous permet de passer toute une journée sans lever le nez, en quelque sorte. Soit on travaille, on est abruti par ça, soit on monte dans la voiture, paf, on met la radio, on a les écouteurs, on est toujours sous un genre de sollicitation permanente pour nous empêcher de lever le nez, d'élever notre pensée à autre chose, à ce qui fait de nous qu'on est des êtres humains. Pas juste des consommateurs, pas juste des gens qui mangent et qui s'habillent, et etc. C'est des gens qui ne font de leur vie que le manger et le boire, qui oublient la dimension spirituelle, au sens le plus large du terme d'ailleurs. Pas seulement spirituel au sens de l'Esprit de Dieu, ce que nous entendons nous par spirituel dans notre vocabulaire, mais quelque chose de tout simplement de ce que l'humain, la dimension humaine de nos existences. Parfois, il y a des gens qui en sont privés par des moyens de pression politique terribles, mais parfois, c'est la société dans laquelle nous, on vit, qui les prive aussi. Ne tombons pas là-dedans, ne tombons pas dans la critique que Jacques fait. Votre seul projet dans la vie, c'est de faire des affaires. Pas de réflexion de fond, pas d'élévation de la pensée, rien qui nous permette de sortir de ce quotidien, de cet abrutissement aveugle d'activité ou d'occupation. Et ça me fait penser d'ailleurs à un texte de Paul aux Thessaloniciens qui parle de ceux qui dorment. Il y a ce genre de sommeil. Alors c'est un sommeil actif, hein. C'est des somnambules les gens là, mais... Oui, c'est 1 Thessaloniciens 5. Vous n'êtes pas comme ceux qui dorment, dit Paul aux Thessaloniciens. Hein. Le verset 3 dit, quand ils diront paix et sécurité, vous voyez, c'est cette idée, tout va bien, on mange bien, on a les émissions rigolotes à la télévision. Ceci dit, j'aime beaucoup rire quand je regarde la télévision, mais voilà, on se contente de ça, tout va bien, paix et sécurité. Et là, la ruine va les... Alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Verset 7, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons pour cuirasse la foi et l'amour, et pour casque l'espérance du salut. » J'ai choisi ce texte parce qu'il nous donne le remède à ça, c'est la vie spirituelle. Ne nous laissons pas abrutir par la société dans laquelle nous vivons, qui nous pousserait à consommer, à se préoccuper de toutes sortes de choses matérielles. N'oublions jamais notre vie spirituelle. Le remède à cela, c'est la vie avec Dieu, c'est la prière, c'est la méditation de la Bible, c'est la vie en Église, c'est ce que nous faisons ce soir. Où vous avez un brave type qui est en train de vous parler et qui vous dit « faut penser à autre chose que simplement faire du gagner sa vie ». Même si, je le répète, gagner sa vie, on l'a assez dit, hein. Je ne suis pas en train de culpabiliser ceux qui gagnent leur vie, hein. Pas du tout. Donc voilà, trois mots et trois remèdes. Le premier mal, j'ai dit avoir peur, donc se surgonfler un petit peu les pectoraux. Et l'idée, c'est de faire confiance, de retravailler notre confiance en Dieu. Ensuite, l'idée de faire tout seul, besoin de personne, l'autonomie et tout ça. Oui, mais loue le Dieu créateur qui t'a créé créature parmi les créatures. Et le troisième danger, vivre abruti par les besoins et les considérations matérielles. Et le remède, c'est la vie spirituelle. Cultiver la vie spirituelle. Et là, par spirituel, là, j'entends bien le sens chrétien du terme, hein, c'est-à-dire la relation, la communion avec Dieu. Voilà ce que m'a inspiré ce texte, très modestement. Alors maintenant, je vous ai donc fait une psychanalyse personnelle. Hein. Peut-être vous pouvez vous livrer d'autres éléments si quelque chose vous est venu à l'esprit. Oui ?
Ce que tu as dit, c'est que dans le dernier verset que tu as lu, la foi, c'est l'antidote à la peur. L'amour, je dirais l'antidote à l'amour des autres, l'amour de soi, ça m'évite de faire tout seul. Et puis l'espérance, c'est ce qui est le moteur qui nous pousse à faire des projets.
Alors Emmanuel, là, nous, je la remercie, nous donne une lecture des vertus qu'on appelle théologales. C'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Alors la foi pour répondre à la peur, l'amour pour répondre à l'autosuffisance, je fais tout seul, et l'espérance, je le cite dans le désordre, pour répondre à l'idée de se cantonner au simple quotidien. Merci beaucoup. Autre chose ? Ça donne à réfléchir. Oui, c'est le but. Alors, on arrive au verset 17. Ce verset 17 m'a posé des problèmes. Alors, on va s'attarder un peu dessus. Je vous le donne en avant-première dimanche prochain. Mais ce soir, il fait partie de mon texte, donc il faut quand même qu'on le lise. Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Vous notez la notion subjective. Hein, c'est bien traduit comme ça, c'est un péché pour lui. Ça veut dire que si je ne peux pas faire le bien que tu peux faire, le fait que je ne le fasse pas n'est pas un péché pour moi. Mais pour toi, oui. Non ? C'est très subjectif. C'est-à-dire que si je ne peux pas faire quelque chose, et si je ne le fais pas, eh ben c'est pas un péché pour moi. En revanche, si toi tu sais faire quelque chose de bien et que tu ne le fais pas, c'est un péché pour toi. Ça marche ? Ça marche toujours pas. Bon, alors on va donner un exemple. Aidez-moi. J'ai pas prévu d'exemple.
Ouais. Dans la mesure où je peux, que je pêche, si je ne le fais pas.
Si je peux aider quelqu'un à porter un gros sac, que je suis musclé, et que si je regarde cette personne en train de peiner à porter son sac, je pêche. Parce que je ne fais pas le bien que je pourrais faire, c'est-à-dire l'aider à porter son sac. Si, en revanche, je marche en béquille, que j'ai une jambe dans le plâtre ou une jambe en moins, je ne peux pas porter son sac, eh ben je ne pêche pas en ne l'aidant pas. Forcément. On ne va quand même pas mettre ça sur le dos en plus. Quoi. C'est clair ? Qu'est-ce que vient faire ce texte-là? C'est quoi le rapport avec ce qui précède? C'est pour ça que moi j'ai un problème avec le rapport qu'il a avec les versets 13 à 16.
Donc, du coup. Avant, il n'y avait pas de séparation dans les chapitres, c'était bloqué.
Alors, il y avait effectivement pas. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas un rapport direct. On peut dire oui, d'accord. On peut en trouver un si on veut, parce que celui qui fait pas les bons projets, des projets de bien, enfin, ouais, ça prend un quart d'heure hein, pour faire le lien entre le verset 16 et le verset 17. En revanche, si on part du principe qu'effectivement il n'y a pas de division à l'origine, il n'y a pas de division en chapitre, hein, c'est venu plus tard. Mais que Jacques ajoute ici une sentence qui est plus générale, puisque Jacques, vous avez constaté que Jacques écrit sa lettre quand même façon patchwork, hein, pour faire un petit clin d'œil de nouveau au groupe du mercredi après-midi, c'est-à-dire un petit bout de ci, un petit bout de ça, ça nous est arrivé d'étudier un thème de Jacques en prenant deux ou trois textes pour qu'ils traitaient du même thème. Ben moi, je pense qu'avec ce petit bout de texte, on est dans ce cas-là. Et on est très proche d'un autre texte qu'on a lu, de Jacques. Lequel? Cherchez un peu. Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. On se rapproche. Alors, l'idée, c'est de faire. Avec ça, j'ai donné une clé. Faire, agir, avoir des actes. Eh ben voilà, on est plutôt dans ce registre-là, c'est-à-dire le verset. Tu veux nous dire la référence?
Chapitre 2, verset 14.
Voilà. Chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 26, il est question, et on en a déjà parlé, de dire sans agir, de dire qu'on a la foi et de ne pas la traduire en acte. Eh ben là, c'est pareil. C'est la même idée. Je sais faire le bien. Je sais vanter le bien, je sais décrire le bien, mais si je ne le fais pas, je me condamne moi-même. Alors, Marie-Joseph cite un autre texte. 1.22, celui-là, je n'y avais pas pensé. Mettez la parole en pratique, je relis hein, pour l'enregistrement. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Oui, il y a de nouveau la question de la mise en œuvre. Bon, là, ce n'est pas la foi et les œuvres, c'est écouter sans faire. Et là, c'est savoir sans faire. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir les sans faire, les regrouper. Savoir sans faire, je l'improvise. Hein. Non, écouter sans faire, dire sans faire, la foi. Et là, savoir faire sans faire. Je répète.
Le troisième,
savoir faire le bien sans le faire. C'est un péché. Dire la foi, dire qu'on croit en Dieu et sans agir. Alors, Jacques ne dit pas que c'est péché, il dit que ça vaut rien. C'est inutile. Et puis, écouter sans faire, c'est idiot. C'est ça, hein? Tu t'oublies la tête que t'as. Bon, moi, quand je me vois le matin, je me dis, c'est aussi bien d'oublier. Hein, Mais bon, Jacques dit, voilà, celui qui oublie comment il est idiot. Bon, pour moi, c'est une maxime qui donc se suffit à elle-même et qui nous donne de nouveau une claque. Alors, on terminera par une claque, désolé, hein, mais ça nous lance un défi, quoi. Rendez-vous dimanche pour la suite. Oui. Ouais, franchement, ouais.
Parce que tous les jours, il y a des trucs qu'on pourrait faire, qu'on sait faire et qu'on ne fait pas.
C'est vrai que c'est difficile. Marie-Joseph dit qu'il est terriblement culpabilisant, ce verset. C'est pas faux, hein. On a tous un problème avec ce verset, parce qu'il y a tous des choses dont on sait faire, des choses bien. Ouais, c'est compliqué. Après, je pense, moi, je le cite de temps en temps. Hein, y a une différence, je pense, entre savoir qu'on pourrait faire des choses si on pouvait, si on était dans la circonstance, si on avait beaucoup d'argent, on pourrait parrainer plein d'enfants pour faire une allusion au culte du sel de dimanche dernier. ou faire des dons pour des actions humanitaires absolument indispensables, etc. On pourrait. Et moi, je me souviens d'une fois d'une personne que j'ai pas pu accueillir ici au presbytère, qui était en grand besoin, pour des raisons que je ne veux pas décrire maintenant comme ça. Ça m'est arrivé il y a une quinzaine d'années à peu près, je m'en souviens encore. Je me suis dit, cette femme-là, j'aurais dû l'accueillir et je ne l'ai pas fait. Et là, je pense que je tombe sous ce verset-là. À un moment donné, il y a quelque chose qu'on va refuser de faire. On va fermer notre cœur. On va décider de ne pas le faire parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on ne veut pas prendre le temps, parce que, etc. Et je pense que c'est des occasions comme ça où ce verset va prendre sa dimension. Parce que si c'est pour nous culpabiliser de tout ce qu'on ne fait pas, tous les appels qu'on reçoit, on va mourir. Il y a une application paranoïaque de ce verset qui pourrait être faite. Hein, c'est-à-dire, finalement, on se lève le matin, on pourrait déjà foncer et donner quelque chose à quelqu'un. Et si on veut en faire une application parfaite, on ne va pas tenir. Oui, alors c'est peut-être bien de nous aiguillonner la parabole du jeune homme riche. Elle était adressée à un jeune homme riche.
Mais qui était presque parfait.
Oui, voilà, on est mis au défi. Tout à fait. Acceptons les défis. Acceptons à un moment donné d'être mal devant un texte de la Bible. Je pense qu'il y a certains textes qui sont faits pour ça. Alors, pas pour nous faire mal, mais pour nous faire avancer. En gros, un coup de pied à l'eau, je pense. C'est vraiment une idée un peu violente, parce que la phrase de Jacques, là, elle est très ramassée. Hein. En français, c'est le cas, et en grec, un peu plus même. Franchement, quoi, ça doit être dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour nous garder en alerte. Et nous empêcher de nous conforter dans une autosuffisance. C'est peut-être là le lien qu'on pourrait faire, si on veut, avec le texte de ce soir, des versets 13 à 16.
Je pense que ton témoignage nous met sur la bonne piste. Le verset dénonce beaucoup plus une négligence, un état d'esprit où on laisse passer du bien qu'on pourrait faire, qu'un appel à la quantité. Jacques ne le dit pas, mais accumuler. Faites du bien.
Mais quand ta conscience te dit que tu devrais faire ça.
Oui, mais ta conscience n'est pas forcément une bonne conseillère. Je pense que là, il faut faire attention à des scrupules qu'on a, au fait qu'on est bombardé d'informations. J'ai du temps de Jacques, s'il y avait quelqu'un qui souffrait de la faim en Égypte, il ne le savait pas là où Jacques écrivait. Hein. Donc il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Dans mon bureau, il y a un verset. Une citation de Mère Teresa qui dit quelque chose qui, pour moi, me parle. « C'est pas le nombre de choses que tu fais qui compte, c'est l'amour que tu mets dans les choses que tu fais. » Parce qu'on peut pas, on n'est que des êtres humains. Moi, je ne peux pas aider tous ceux qui souffrent. Ce n'est pas possible. Donc, je reçois beaucoup plus d'informations je reçois des informations qui dépassent largement mes possibilités d'aide. Et je veux dire, au niveau local même, là, on a peut-être en idée des personnes au loin, mais même ici, je veux dire, l'association dans laquelle je suis engagé, perpétuellement, on est à dire, ces personnes-là, et ça nous fait très mal, on n'arrive pas à les aider. À un moment donné, on touche nos limites.
Et pour le coup, Jacques est clair, il dit ce que tu peux faire.
Oui.
Il dit pas tout le bien qui devrait être fait autour de toi.
Exact. Merci, je répète, et après je te donne la parole, sinon tu auras une tendinite. Jacques précise bien les choses qu'on peut faire. Voilà. C'est des choses qui sont réalistes, c'est pas tout ce qu'il faudrait faire si on était un surhumain. Oui ? Alors, je vais le relire, Martin, mais il faut que tu me redonnes la référence, s'il te plaît. Oui. Alors, Martin cite 2 Corinthiens 8, 12. En effet, quand l'ardeur existe, alors je le lis dans ma traduction du coup, hein. Quand l'ardeur existe, elle n'est pas agréée en fonction de ce qu'on n'a pas, mais en fonction de ce qu'on a. Merci, c'est une réponse qui nous est utile, qui équilibre le propos et la question qui a été posée par Marie-Joseph, que je remercie. Moi, j'ai fini mes notes. On a presque fini l'heure. Y a-t-il encore des personnes qui veulent ajouter quelque chose ? Alors, André ?
Un verset qui me plaît, moi, c'est « Ne sois pas juste annexé ».
Ah oui, alors, ça, alors un verset nous est donné par André, « Ne sois pas juste annexé ». J'avoue que je ne sais plus du tout dans quel contexte ce proverbe, mais qu'est-ce qu'il y a autour ? Là, ça vaudrait la peine de voir plus. Merci.
Je me pose la question, la théologie des péchés par omission et par commission, est-ce que ça s'applique sur ce texte ?
Bah, moi, je me le suis noté. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'avais pas lu dans mes notes. J'ai marqué, c'est le péché par omission.
Donc, autant que je sache, oui. C'est typiquement le verset qui enracine la théologie du péché par omission.
Alors, on fait la différence, je ne sais pas dans quelle théologie d'ailleurs, peut-être dans toutes, la différence entre le péché par omission qu'on a ici, c'est-à-dire ce qu'on pourrait faire de bien et qu'on ne fait pas, et par commission. Alors, ce n'est pas quand on va faire les courses, hein, c'est quand ou qu'on achète de trop. Et puis non, c'est quand on commet un péché. Et donc, c'est un acte positif, quoi. C'est, enfin, positif, si je puis dire. Un acte fait. Alors que le péché par omission, c'est un acte pas fait. Oui, bon, on est dans la définition du péché par omission, à mon avis. Ouais. Il y en a peut-être d'autres, des définitions, mais en tout cas, c'en est une. Comme on avait dans le texte précédent, d'ailleurs, une définition de l'orgueil. Hein, je reviens, ce texte ne définit pas l'orgueil dans son ensemble. Par exemple, il ne dit rien du fait de se considérer supérieur aux autres. Ça, c'est une autre forme d'orgueil. Je pense qu'on a suffisamment évoqué cette forme-là pour comprendre. Voilà, c'est pour ça que c'est très circonscrit comme propos, hein, que Jacques fait. Bien. Bon, on va terminer sur une note positive. Je vous rappelle juste l'importance de la vie spirituelle. Personnel, de la louange envers Dieu et de la confiance qu'on peut lui donner. Et puis, ces trois vertus qui ont été rappelées par Emmanuel, la foi, l'espérance et l'amour. Restons-en sur ces choses positives pour faire passer la petite claque du verset 17. Puis je vous invite à un petit temps de prière, si vous voulez, pour terminer cette étude méditative.